Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal Belinda Bosuma.
Vital Kamerhe est cité à comparaître dans un procès public le 11 mai prochain. Avec lui, le Libanais à la tête de deux sociétés commerciales ainsi que le chargé de services import-export de la présidence de la République. L'État congolais à la rescousse des entreprises congolaises affectées par le Covid-19. Le ministre de l'Industrie a réuni pour ce faire le conseil d'administration et la direction générale du fonds de promotion de l'industrie. C'était hier à Kinshasa. Et puis en Mbujimayi, plus d'enterrements sans attestation de décès dûment signé par un médecin et sans permis d'inhumation délivré par la mairie. C'est pour chercher à connaître le motif du décès dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, explique le maire Louis Dorntumba. Il est l'invité de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Justice pour commencer. Le directeur de cabinet du président de la République, Vital Kamerhe, Jamal Sami, le sujet libanais à la tête des deux sociétés commerciales, et Jeannot Mouima, chargé du service import-export de la présidence de la République, sont cités à comparaître dans un procès public. Il s'ouvre le 11 mai prochain devant le tribunal de grande instance de la Gombe à Kinshasa. La citation a prévenu, leur a été notifiée le lundi 27 avril. Corruption, détournement des deniers publics et abus de pouvoir sont parmi les infractions mises à leur charge. Jeff Ngoy nous en dit plus. Voilà, nous allons revenir à Jeff plus tard, mais entre-temps, sachez que le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Thomas Luaka, sera entendu ce mercredi par le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, et cela en tant que renseignant dans le dossier Sokok et Foner concernant l'exécution du programme des 100 jours. C'est en sa qualité d'ancien ministre des ITPR qu'il a été invité par le parquet sur le contrat qui liait Sokok Sud Kivu au Foner sous son ministère et dont les travaux n'ont pas été exécutés alors que l'argent était sorti du trésor public. Cette audition pourrait donner lieu à des confrontations avec les directeurs généraux de l'OVD et du Foner. Donc nous allons revenir à Jeff plus tard. Autre nouvelle, le chef de l'État et le Premier ministre s'engagent dans la voie de pacifier et sécuriser la province de l'Ituri en proie à des exactions et tueries ces derniers mois. Félix Antoine Tshisekedi a réuni hier à la cité de l'Ancelé à Kinshasa les anciens belligérants des affrontements entre Emma et Lendu. De son côté, le Premier ministre a échangé avec le coordonnateur national de Starek, le programme de stabilisation et de reconstruction des zones sortant des conflits armés. La sensibilisation des communautés locales a privilégié la voie de la paix et l'accélération du processus de désarmement, démobilisation et réinsertion. Sont quelques recommandations issues de ces deux rencontres, renseignent deux dépêches de la présidence de la primature, Billy Van Lutumba, pour les détails.
À la cité de Lancelé, souligne la presse présidentielle, Thomas Lubanga, un ancien seigneur des guerres, reconnaît que la province de l'Ituri traverse une situation qui tend vers des crimes contre l'humanité et le génocide. À la tête d'une délégation de la tribu Emma, Thomas Lubanga affirme avoir pris l'engagement devant le chef de l'État de lui fournir toutes les informations possibles devant lui permettre de prendre des mesures efficaces pour pacifier l'Ituri. Le chef de l'État nous a exhorté de conscientiser nos frères et sœurs afin d'arrêter de nous entretuer, mais de cultiver l'union des communautés qui aidera à exploiter les potentialité que régorge notre province. Ainsi ont fait savoir Floribert Nzabungabu et Célestin Bondina Iribi de la tribu Lendu. D'autre part, en vue de consolider l'accord de paix signé en février dernier entre le gouvernement de la République et la milice FRPI, le Premier ministre et le coordonnateur national des Starek ont convenu d'accélérer le processus des DDR. Alain Kachindi Assoumani.
Au niveau de la province de l'Ituri, les choses sont en train de bouger. Les sites des DDR sont déjà disponibles. Nous sommes en train de faire en sorte que d'ici le 5 que le désarmement commence. Au niveau de la FRPI, il y avait la libération des enfants et il y avait aussi qu'ils donnent leur ordre de bataille, c'est-à-dire la liste des éléments de la FRPI ainsi que leur armement.
Rappelons que cet accord de paix de février est intervenu après 20 ans d'activisme de la milice FRPI dans la province de l'Ituri.
Parlant de l'Ituri, notez que la MONUSCO a renforcé ses troupes depuis la semaine dernière dans le territoire de Djougou, précisément autour de Fataki. C'est pour prévenir les attaques contre la population civile par les assaillants de la CODECO. La présence de ces casques bleus est saluée par la population locale, souvent victime des exactions de ce groupe armé. Cependant, les habitants plaident pour le rapprochement de la base onusienne, là où il y a une forte concentration de la population pour plus d'efficacité. Ils l'ont dit hier à une délégation de la MONUSCO Bounia en visite dans la région. Jean-Claude Lowe qui revient de Djougou.
Cette base temporaire de la MONUSCO est installée à Djaïba, située respectivement à 5 km du centre commercial de Fataki et à 7 km de la paroisse catholique. C'est ici d'ailleurs que sont érigés trois sites qui hébergent plus de 3000 personnes déplacées. Pour cet enseignant, le danger est toujours permanent. Gustave Lokana.
Ils sont bien sûr quand même à Djaïba, c'est bien. Mais l'insécurité comme telle, c'est du côté de la paroisse. Alors s'il n'y a pas de déploiement, je pense que les déplacés vont demeurer dans leur site.
Mais pour la MONUSCO, le choix du site où est placée la base de ces soldats de la paix se justifie pour des besoins stratégiques. Cependant, le commandant des forces de la MONUSCO en Ituri n'exclut pas la possibilité de déménager cette base vers un autre site en cas de besoin. Le général Abou Mohamed.
Parce que en cas d'attaque, nous avons la flexibilité de nous mouvoir dans toutes les directions. Toutefois, j'ai instruit le commandant de la base de se renseigner s'il ne pourrait pas avoir une autre place plus accessible qui satisfasse aux besoins de la population.
Avant Fataki, les responsables de la MONUSCO en Ituri se sont rendus à Bayo, dans la chefferie de Bahema Badjere, en vue de s'imprégner également de la situation sécuritaire et humanitaire dans la région. De retour de Djougou, Jean-Claude Lokidile, Radio Okapi.
Rendons-nous à Mbandaka. Des personnalités regroupées au sein de la notabilité s'insurgent contre les messages de haine et des divisions entre fils et filles de l'Équateur, allusion faite aux propos qualifiés de diffamatoires et de calomnieux diffusés sur les médias nationaux et locaux ainsi que sur les réseaux sociaux. La notabilité appelle plutôt à l'unité en vue de fédérer les efforts contre les menaces de la pandémie du Covid-19 dans la province. Appel lancé lors d'un point de presse mardi au chef-lieu de l'Équateur. La déclaration de la notabilité de Mbandaka a été élu à cet effet par son vice-président Albert Mpele, propos recueillis par Paul-Richard Malengela.
Après examen de la situation, il s'observe qu'il y a un groupe de politiciens déguisés en notabilité en séjour à Kinshasa, organisant des émissions à caractère diffamatoire, injurieux, outrageant, avec l'objectif de déstabiliser les institutions de la province, au moment où le gouverneur s'est résolument engagé de faire respecter les mesures de la lutte contre le Covid-19. À cet effet, la notabilité de la ville de Mbandaka met en garde les usurpateurs qui engagent sans qualité notre structure au mépris de la mission principale dévolue à la notabilité comme une structure apolitique au regard des statuts de cette dernière. Aux médias de Mbandaka et de Kinshasa de cesser de diffuser les messages de la haine entre filles et fils de l'Équateur.
Les notables de Mbandaka ont aussi exprimé leur soutien aux travaux routiers et de sécurisation de la ville initiés par le gouverneur Bobo Boloko. Je vous le disais en titre, le gouvernement congolais, à travers le Fonds de promotion de l'industrie FPI, s'engage à soutenir toutes les entreprises congolaises affectées par la pandémie de coronavirus. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, a réuni autour de lui hier le conseil d'administration ainsi que la direction générale du FPI pour arrêter les modalités pratiques quant à la mise en œuvre de cette décision du gouvernement. L'objectif étant de tenter d'alléger le choc subi par l'économie congolaise qui est tournée vers l'extérieur. Le ministre Julien Paluku, dans ses propos recueillis par Jacques-Yves Molima.
Nous avons échangé autour de la politique à mettre en place pour devoir soutenir les entreprises congolaises. Et là, nous avons donné des orientations pour que le conseil d'administration se réunisse le plus rapidement possible, de façon à pouvoir définir une enveloppe globale qui sera décaissée pour devoir accompagner cette entreprise, mais également pour que la direction générale puisse faire une séquence ou un séquençage de cette enveloppe de manière à soutenir le plus grand nombre d'entreprises. Parce que là, il s'agira non pas d'entreprises qui commencent, mais d'entreprises qui existent déjà et qui ont des difficultés de fonctionnement à la suite du choc subi par cette pandémie de coronavirus. Et donc là, nous attendons très rapidement que dans les 2 ou 3 jours, les conseils se réunissent et que la mise en œuvre de ce que nous avons dit tout à l'heure soit faite et que les entreprises commencent à envoyer déjà leurs projets dans tous les secteurs dont les secteurs prioritaires ont également été définis, à savoir les secteurs agroalimentaires, les secteurs pharmaceutiques, les secteurs logistiques et tous les autres secteurs de commercialisation qui intéressent la relance de l'économie congolaise.
Lutte contre le coronavirus, le constat est amer à Matadi. Dans sa grande majorité, la population a du mal à porter des masques pour se protéger de cette maladie. Pourtant, depuis mardi, le port de masque est obligatoire dans cette ville sur décision du gouverneur Atumatubwana, informé du fait que les deux personnes malades du Covid-19 enregistrées à Matadi n'ont jamais été à Kinshasa, craint que la maladie ne se propage, d'où sa décision d'instaurer le port obligatoire des masques. Nana Plurish Mambu nous fait le point.
Le gouverneur Karlin Zanzoukasivita a rassuré la population du Nord Kivu que la surveillance des mouvements d'approvisionnement aux frontières et des éventuels cas suspects sont suivis de près. Raison pour la...
Toutes nos excuses, nous sommes allés vite en besogne. Je parlais de Matadi où le constat est amer concernant la lutte contre la pandémie du coronavirus. Le point avec Nana Plurish Mambu.
D'après Dr Get Makindu, coordonnateur de l'équipe de riposte à la zone de santé de Matadi, parmi les deux personnes contaminées au coronavirus à Matadi, l'un est un vendeur dans un grand magasin de la place. Bien qu'il soit déjà pris en charge, les personnes qui étaient en contact avec lui, majoritairement des gens venus acheter quelque chose à ces grands magasins, ne sont pas encore identifiées. C'est cette crainte qui pousse le gouverneur à demander à la population matadienne de porter les masques pour ne pas attraper la maladie. Mais les constats faits sur le terrain renvoient une image plutôt désolante. Très peu de personnes rencontrées dans les rues de Matadi portent les masques au deuxième jour de l'entrée en vigueur de la décision du gouverneur. Inquiets, les coordonnateurs provinciaux de la société civile pense qu'il faut que cette mesure soit accompagnée des sanctions pour qu'elle donne les résultats attendus.
Si les mesures ne sont pas accompagnées des sanctions sévères, je vous assure, nous risquons de connaître les purs.
Signalons que certaines personnes ont du mal à comprendre comment Matadi peut enregistrer des cas de COVID-19 alors qu'il y a presque un mois, la ville est coupée de Kinshasa, l'épicentre de la pandémie. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
Entre-temps, les activités sont paralysées ce mercredi dans la ville frontalière de Kasumbalesa pour cause de confinement décidé par le gouverneur de province. Les commerces sont fermés et il n'y a pas de circulation sur les grandes artères dont la nationale numéro 1. Le trafic entre Lubumbashi et Kasumbalesa est aussi frappé. Les forces de l'ordre ont érigé des barrières ça et là pour contraindre tout le monde à observer la mesure. D'après le maire de Kasumbalesa, André Kapampa, la frontière est ouverte pour les véhicules à l'import et à l'export. Cependant, le rythme est inhabituel car il y a très peu de véhicules qui se présentent. Nord Kivu à présent, reprise du trafic aérien dès aujourd'hui entre Goma, Butembo, Beni, mais aussi les chefs-lieux des provinces non touchés par le Covid-19, notamment Kindu et Kisangani. C'est ce qu'a annoncé le gouverneur de province hier dans une déclaration à la presse à Goma. Karlin Zanzoukasivita a indiqué qu'au regard de l'évolution de la situation du Covid-19, il n'y a plus de raison d'isoler les grandes agglomérations. Toutefois, il réitère son appel à la population à ne pas relâcher l'observance des mesures de prévention. Sifa Maguru.
Le gouverneur Karlin Zanzoukasivita a rassuré la population du Nord Kivu que la surveillance des mouvements d'approvisionnement aux frontières et des éventuels cas suspects sont suivis de près, raison pour laquelle la coordination provinciale de la riposte a décidé de rouvrir les trafics aériens avec certaines provinces.
À partir de demain, les vols peuvent reprendre entre Goma, Butembo, Beni, mais aussi les chefs-lieux de province qui n'ont jamais eu le Covid. C'est comme Kindu, c'est comme Chopo, ils n'ont jamais eu de cas. Il n'y a pas de raison pour nous de limiter le voyage vers Kisangani.
Au sujet des Congolais rapatriés de l'étranger, notamment ceux du Rwanda qui ne sont pas mis en quarantaine, le gouverneur explique.
Non seulement au Rwanda, on a aussi rapatrié ceux qui étaient en Dubaï, ceux qui étaient à Kampala, mais nous les avons reçus avec toute sécurité. Mais nous pouvons vous rassurer que nombreux étaient à Gisenyi, ils étaient à confinement, d'ailleurs mieux que nous, ils étaient à confinement total. C'est la raison pour laquelle notre coordination de la riposte Covid a estimé qu'il n'est pas nécessaire de les mettre encore en quarantaine.
Karlin Zanzoukasivita a fustigé également un certain relâchement qui s'observe dans la population depuis l'annonce de la guérison des malades du Covid-19, ce qui n'est pas une bonne chose, surtout que la province fait également face à la maladie à virus Ebola, dont un septième cas a été déclaré hier à Beni. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Par ailleurs, la province du Sud Kivu est totalement déchargée des cas positifs au Covid-19. La dernière personne malade et guérie à Bukavu a quitté le centre de traitement mardi, annonce faite à la presse hier même par le gouverneur de province. Toutefois, le gouvernement provincial du Sud Kivu appelle la population à plus de vigilance dans l'observance des mesures barrières. Théo Kassi Ngwabidje, gouverneur du Sud Kivu, au micro de Emmanuel Elamegi.
Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'annoncer que le dernier cas confirmé du Covid-19 est déchargé. Les derniers résultats de contrôle sont sortis négatifs. Il est donc de notre devoir de le remettre en famille et dans la communauté pour la reprise normale de ses activités. Le gouvernement provincial, avec tous ses partenaires impliqués effectivement dans la grande lutte contre Covid-19 et toute l'équipe de Riposte, sommes très fiers de la collaboration dont a fait preuve la personne aujourd'hui déchargée. À présent, la province du Sud Kivu ne compte plus un cas confirmé du Covid-19. Je dis bien pour l'instant. Aujourd'hui, j'ai l'obligation de vous dire que nous avons gagné la bataille, mais non la guerre. C'est pour dire que tout en nous réjouissant des résultats obtenus ces jours, nous devons cependant rester très vigilants et continuer à observer scrupuleusement tous les gestes barrières et d'autres mesures préventives contre coronavirus. J'insiste sur ma mesure phare, en l'occurrence, les ports obligatoires des masques.
Et en ce qui concerne l'évolution de Covid-19 en RDC, notez que 20 nouveaux cas confirmés ont été enregistrés hier à Kinshasa. On note 3 nouvelles guéries et aucun nouveau décès. Au total, il y a eu 30 décès et 59 guérisons. Ceci pour un total de 491 cas depuis le début de l'épidémie dans le pays. Comme promis, revenons à l'information principale de ce journal. Le directeur de cabinet du président de la République, Vital Kamerhe, Jamal Sami, le sujet libanais à la tête des deux sociétés commerciales, et Jeannot Mouima, chargé de services import-export de la présidence de la République, sont cités à comparaître dans un procès public. Il s'ouvre le 11 mai prochain devant le tribunal de grande instance de la Gombe à Kinshasa. La citation a prévenu, leur a été notifiée le lundi 27 avril. Corruption, détournement des deniers publics et abus de pouvoir sont parmi les infractions mises à leur charge. Jeff Ngoy nous en dit plus.
Vital Kamerhe et Jamal Sami sont prévenus de détournement de la somme de plus de 48 millions de dollars sortis du trésor public et remise à la société du Libanais Sami Bossarl pour l'achat et l'érection de 1500 maisons préfabriquées dans le cadre du projet de logements sociaux pour 5 provinces de la RDC. Projet inscrit au programme de 100 jours initié par le président de la République. Il leur est également reproché en solidarité le détournement de plus de 2 millions de dollars remis à une autre société de Jamal, Ousmane Sarl, pour l'achat et l'érection de 3000 maisons préfabriquées pour les policiers et militaires de la ville de Kinshasa. Jeannot Mouima, chargé du service import-export de la présidence de la République, et Kamerhe sont solidairement prévenus du détournement de 1 100 000 $ remis à Mouima pour le dédouanement et le transport des maisons préfabriquées. Une autre prévention concerne l'acceptation indirecte par l'intermédiaire de la belle-fille de Kamerhe, Soraya Mpiana, de l'achat à son profit d'une concession mesurant 70 mètres sur 100 en galliement afin d'abuser de son influence réelle en tant que directeur de cabinet du président de la République pour faire gagner à Jamal sous ses sociétés les marchés publics en violation de la procédure d'appel d'offres et seuil fixé par la législation en matière de passation de marché par voie de gré à gré. La citation à prévenir est donc l'acte par lequel le ministère public saisit le tribunal. Il signifie ainsi au prévenu les charges pour lesquelles il les défère devant la justice afin de leur permettre de préparer leurs moyens de défense.
Dans l'actualité, notez aussi que la ferme Neviundu de la faculté de médecine vétérinaire de l'université de Lubumbashi a été pillée par les riverains depuis le week-end dernier jusque lundi. La plupart des biens dont des bétails ont été emportés. Pour le doyen de cette faculté, c'est un coup dur que vient de subir cette faculté qui ne peut se relever qu'avec l'intervention de l'État congolais. Le professeur Malango Mposhi, doyen de la faculté de médecine vétérinaire de l'INILU, est au micro de Jean Gando.
Ils ont tout pris. Ils ont saccagé les maisons jusqu'à vouloir emporter les murs des préfabriqués, les tôles, tous les animaux, des chèvres, des moutons, des lapins, la volaille. On a démoli les serres, les grillages emportés. Mettez-vous à la place d'une faculté de médecine vétérinaire telle que la nôtre, qui est une faculté technique qui fonde son action rien que sur la réalité des terrains. On nous fait ça après qu'on venait encore de nous spolier la ferme d'en face. Je manque de mots et je suis tellement touché, je ne sais pas quoi vous dire. Mais en tout cas, je m'en remets à Dieu. Parce que les coups que nous venons de subir successivement, ça a traumatisé et les professeurs. Et je suis sûr que les étudiants là où ils sont fortement traumatisés car nous ne comprenons pas ce qui arrive à la faculté de médecine vétérinaire qui voit chaque fois toutes les bonnes opportunités être anéanties comme un éclair. Cela nous fait terriblement mal. Nous sommes sinistrés. On ne peut pas faire quelque chose d'autre sans que le gouvernement n'intervienne en notre faveur.
D'autant que cette faculté était en partenariat avec des Chinois et ce pillage est intervenu un jour après le départ des Chinois qui y ont travaillé pendant plusieurs années.
Actualité internationale.
Guillaume Soro dit rester candidat à la présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire malgré sa condamnation. Il a déclaré dans un commentaire hier, juste après la décision du tribunal de grande instance d'Abidjan. Il est condamné à 20 ans de prison pour recel, détournement des deniers publics et blanchiment des capitaux. Une condamnation politique, selon lui, qui serait la conséquence d'une cabale destinée à l'empêcher de se présenter, dit-il. 47 ans d'âge, Guillaume Soro, ancien leader étudiant, ancien chef de la rébellion, ancien Premier ministre, ex-président de l'Assemblée nationale, il était l'allié de longue date d'Alassane Ouattara, mais la rupture est consommée en 2019 quand il se rapproche de Henri Konan Bédié, l'adversaire déclaré de Ouattara.
L'invité.
Nous sommes au Kassai oriental. Aucun cadavre humain ne peut désormais être inhumé sans attestation de décès dûment signée par un médecin et sans permis d'inhumation délivré par la mairie de Mbujimayi. Décision contenue dans un communiqué officiel de la mairie publié le week-end dernier. Le maire Louis Dorntumba s'entretient à ce sujet avec Esther Ndalafina.
Bonjour, monsieur le maire.
Bonjour, madame.
Monsieur le maire, nous venons de recevoir un communiqué que vous avez publié. Est-ce que nous pouvons savoir le contenu de ce communiqué?
Nous avons publié le communiqué numéro 2 de 2020 relatif à l'inhumation des corps et au respect des mesures qui ont été prises par le président de la République en ce qui concerne la lutte contre le coronavirus dans la ville de Mbujimayi.
Et qu'est-ce que vous demandez ou bien qu'est-ce que vous donnez comme instruction?
D'abord, en ce qui concerne l'inhumation, je demande que personne ne puisse inhumer un corps sans qu'il y ait d'abord attestation de décès et puis un permis d'inhumation. Donc ce sont les deux documents importants et tous les deux documents sont établis sur base d'un certificat médical délivré par un médecin qui constate le décès. Il y a en Mbujimayi, ces derniers temps, l'inhumation qui s'est faite sans respecter les règles d'inhumation. Quand nous essayons de faire les statistiques de décès, nous essayons de savoir qui est mort, il est mort de quoi, nous ne nous en retrouvons pas. C'est comme ça que nous avons demandé que cette instruction puisse être de stricte application et surtout à cette période où nous avons la pandémie de coronavirus dans la ville et dans la province, que nous puissions savoir qui est mort de quoi et dans quelle manière on peut l'inhumer.
Pourquoi cette mesure intervient maintenant?
Non, c'est une mesure que nous avons de tous les temps, mais qui n'est pas suffisamment respectée par la population. Et ça, c'est la troisième ou la quatrième fois que nous demandons à la population de respecter. Il y en a qui respectent, mais il y a des personnes qui ne respectent pas. C'est comme ça que nous avons voulu relancer. Et surtout à cette période, il faut absolument que la règle soit respectée, que nous puissions suivre dans le cadre de la lutte contre la pandémie actuelle. Nous pensons que nous puissions aider le comité provincial à suivre les cas de décès, d'inhumation de la population dans la ville de Mbujimayi. Alors nous avons chargé les chefs de quartier, chefs de rue, parce que ce sont des personnes qui savent réellement que telle personne est morte et telle personne va être inhumée. Ce sont ces personnes-là, si elles vraiment appliquent avec fermeté la mesure, nous sommes sûrs que nous allons nous en sortir, nous allons avoir des statistiques plus ou moins fiables.
Et qui peut délivrer le permis d'inhumation? Parce que vous avez dit que le certificat est délivré par un médecin. Et le permis d'inhumation, est-ce qu'on peut l'obtenir et qui le délivre?
Non, dans le cas de la ville, c'est la mairie. La mairie de la ville délivre les certificats d'inhumation et l'attestation de décès.
À combien?
Je crois que les deux se vendent à 15 000 francs, je crois, pas plus.
Alors, par rapport à l'inhumation, comment se fera le suivi, étant donné que la mairie ne gère aucun cimetière.
Si les chefs de quartier, les chefs de rue, les bourgmestres des communes nous accompagnent, il y a de bonnes manières que nous puissions suivre les inhumations. Pas plus tard que ce matin, j'ai eu à recevoir plusieurs coups de téléphone de la plupart des personnes endeuillées qui rencontrent une résistance de la part des chefs de quartier, des chefs de rue, et disent nous ne savons pas enterrer nos corps, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit vous devez venir à la mairie et obtenir les papiers pour pouvoir le faire.
Nous constatons que la mairie ne gère aucun cimetière, comme je venais de le dire tout à l'heure. Le grand cimetière, là où on enterre beaucoup de personnes, se trouve dans le territoire de Katanga. Il y a un autre cimetière du côté du site Pemkao qui est géré par les autochtones. Alors, n'avez-vous pas peur que les dépouilles soient abandonnées devant le cimetière faute de ces documents?
Non, je ne pense pas. Donc, quand vous allez du côté du territoire Katanga, vous devez traverser le pont, vous devez traverser la ville pour amener le corps. Donc, si les services de la ville surveillent la sortie des corps, je crois que nous ne pouvons pas avoir peur que les corps soient abandonnés. Deuxièmement, pour sortir avec les corps, pour l'amener à l'extérieur, il faut détenir 3 documents. Donc, le certificat du médecin permet à la mairie d'établir les 2 documents. Et quand, pour sortir, il faut avoir ces 2 documents. Si vous voulez amener le corps plus loin, qui est en dehors de la province, vous devez avoir une autorisation de sortie de corps qui coûte 1 000 $ quand vous voulez sortir d'un corps de Mbujimayi vers Kananga, vers Chikapa ou vers Kinshasa. Si vous ne l'avez pas, ce papier, vous ne sortez pas.
Et par rapport aux détenus, aux prisonniers?
La prison fait les demandes, nous faisons les papiers. Mais jusqu'à maintenant, la prison n'a jamais fait une demande chez nous. On apprend qu'il y a des morts et qu'on les a enterrés, mais on n'est jamais passé par les services de l'État. C'est pourquoi nous rappelons à tout le monde de se mettre en règle vis-à-vis de cette réglementation.
Monsieur le maire, je vous remercie.
Merci Madame Esther.
C'était là notre invité, le maire de la ville de Mbujimayi, Louis-Dor Ntumba. Voilà tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi.